L'acceptation était la réponse. Le médecin n'était pas accro, pensait-il. Il ne faisait que prescrire des drogues indiquées médicalement pour ses nombreux maux. L'acceptation fut la clé de sa libération. Si jamais quelqu'un s'est présenté chez les AA par erreur, c'est moi. Ce n'était pas ma place. Jamais, dans mes périodes les plus folles, il ne m'est venu à l'esprit que je pouvais être alcoolique. Pas une fois, ma mère n'a même laissé sous-entendre que lorsque je serai plus vieux, je voudrais être président des AA. Non seulement je ne pensais pas qu'il était une bonne idée d'être un alcoolique, je ne croyais même pas que j'avais un problème d'alcool à ce point. Oui, j'avais des problèmes, toutes sortes de problèmes. Si vous aviez eu mes problèmes, vous boiriez aussi. Voilà ce que je ressentais. Mon plus grand problème était d'ordre matrimonial. Si vous étiez marié avec ma femme, vous boiriez aussi. Max et moi avons été mariés pendant 28 ans quand je me suis retrouvée chez les AA. Au début, c'était un bon mariage, mais il s'est détérioré au fil des années pendant qu'il progressait à travers les différents stages de la qualification pour elle à non. Au début, elle disait « Tu ne m'aimes pas, pourquoi ne l'admets-tu pas? » Plus tard, elle disait « Tu n'as pas de respect pour moi, pourquoi ne l'admets-tu pas? » Alors que sa maladie était au stade terminal, elle criait « tu me détestes, pourquoi n'admets-tu pas que tu me détestes? » Je l'ai donc admis. Je me souviens très bien avoir dit « Il n'y a qu'une personne au monde que je ne peux pas supporter plus que toi, et cette personne, c'est moi. » Elle a pleuré un peu et s'est couchée. C'était la seule réponse au problème qu'elle avait créé. J'ai pleuré un peu et je me suis préparé un autre verre. Aujourd'hui, nous n'avons plus besoin de vivre ainsi. Max n'était pas devenu ainsi parce que j'étais indifférent. Au contraire, il semble que je m'en souciais trop. Je l'avais envoyé chez 4 psychiatres consécutifs et pas un n'a réussi à me faire cesser de boire. J'ai aussi envoyé mes parents, mes enfants chez les psychiatres. Je me souviens d'une fois où même le chien a eu un diagnostic psychiatrique. Je criais à Max « Que veux-tu dire? Le chien a besoin de plus d'amour. » Tu diras à ce stupide médecin de chat et de chien qu'il n'est pas psychiatre à Beverly Hills. Tout ce que je veux savoir, c'est pourquoi ce chien fait pipi sur mes genoux chaque fois que je le prends. Ce chien n'a pas mouillé mes pantalons une seule fois depuis que je suis chez les AA et moi non plus. Plus j'essayais d'aider Max, plus elle devenait malade. Quand le tout s'est finalement terminé dans une aile psychiatrique, je n'étais pas du tout surpris. Mais quand la porte d'acier s'est refermée, que c'est elle qui est repartie vers la maison, j'en étais vraiment étonnée. J'avais commencé à boire pendant mes premières années d'études de pharmacien pour pouvoir trouver le sommeil. Après avoir suivi les cours toute la journée, travaillé dans la pharmacie familiale toute la soirée pour ensuite étudier jusqu'à 1 h ou 2 du matin, je ne pouvais pas dormir profondément avec tout ce que j'avais étudié qui tournait dans ma tête. J'étais à moitié endormie, à moitié éveillée, et au matin, j'étais fatiguée et stupide. C'est alors que j'ai trouvé la solution. À la fin de la période d'études, je buvais 2 bières, je sautais dans le lit pour dormir très vite et je me réveillais intelligent. J'ai bu tout au long de mes études et je m'en suis toujours tirée avec les honneurs. Ma consommation d'alcool a augmenté régulièrement pendant toutes les étapes de ma formation de médecin, de pharmacien, puis de médecin spécialiste et finalement dans ma pratique. Je croyais que c'était parce que mes responsabilités augmentaient. Si vous aviez eu mes responsabilités, si vous aviez manqué de sommeil comme moi, vous auriez bu aussi. Je buvais après les heures de travail. Je me souviens m'être retrouvé en plein milieu de la nuit dans le stationnement réservé aux médecins et à l'hôpital, un pied dans l'auto et l'autre sur le sol, ne sachant pas qui menait l'autre pied. M'être retrouvé à raccrocher le récepteur du téléphone pour constater ensuite que j'étais sortie du lit, que j'avais répondu au téléphone, allumé la lumière et que j'avais eu une conversation avec un patient. Je ne savais pas si je lui avais dit d'aller d'urgence à l'hôpital et que je le rencontrerais là ou de prendre 2 aspirines et de me téléphoner le lendemain. Avec un tel problème, je ne pouvais pas m'endormir. Je m'asseyais donc pour regarder les vieux films de Wallace Beery à la télévision et pour boire. Plus je continuais à boire, plus court était le laps de temps où l'alcool me permettait de dormir. Il me fallait boire à nouveau pour me rendormir, encore et encore, pendant toute la nuit. Je n'ai jamais bu le matin. Je prenais plutôt mon dernier verre à 5 h. S'il était 5 h moins 1 minute, je buvais pour me rendormir. S'il était 5 h 1 minute, je restais debout et je jouais au martyr toute la journée jusqu'à ce qu'un jour, je me demande ce que je ferais pour un patient qui se sentirait si mal. La réponse est venue tout de suite. Je lui prescrirai quelque chose pour le remonter. J'ai immédiatement commencé à prendre des excitants, en comprimé et en injection. J'en suis venue à prendre 45 mg de benzédrine à action prolongée et 45 à action rapide, simplement pour sortir du lit le matin. Je prenais d'autres pilules pendant la journée pour augmenter mon état d'euphorie et encore plus pour le maintenir. Quand je dépassais la limite, je prenais des tranquillisants pour compenser. Les stimulants ont fini par m'affecter l'ouïe. Je ne pouvais pas écouter assez rapidement pour entendre ce que je disais. Je pensais, je me demande pourquoi je dis encore cela. Cela fait 3 fois que je le répète. Pourtant, je ne pouvais pas me taire. Pour me rééquilibrer, j'aimais le démérol en intraveineuse, mais je trouvais difficile de bien pratiquer la médecine en m'injectant de la morphine. Après une injection, il me fallait garder une main occupée à me gratter le nez qui piquait continuellement, et j'avais aussi des besoins irrésistibles et incontrôlables de vomir. La codéine, le percodin et les tranquillisants ne m'ont jamais procuré beaucoup d'effets. Par contre, il y a un temps où je m'injectais du pain total en intraveineuse pour m'endormir. J'utilisais la même chose que le chirurgien-dentiste injecte dans les veines et dit « Comptez jusqu'à 10 et avant d'être rendu à 2, vous vous êtes endormi. » C'était des pertes de mémoire instantanées qui semblaient fantastiques. Je ne croyais pas pouvoir me coucher et injecter le liquide dans mes veines pendant que mes enfants et ma femme étaient là à me regarder, et je gardais donc de la drogue dans mon sac, et le sac dans l'auto, et l'auto dans le garage. Heureusement, le garage était attenant à la maison. Dans le garage, je mettais l'aiguille dans ma veine et j'essayais ensuite de penser à la quantité précise de médicaments que je devais injecter pour neutraliser les stimulants, tout en ajoutant des somnifères et en ignorant les tranquillisants, afin d'en mettre juste assez pour pouvoir sortir l'aiguille, tirer brusquement sur le garrot, le lancer dans l'auto, fermer la porte, courir dans le couloir et tomber dans le lit avant de m'endormir. Il était difficile d'évaluer la bonne quantité. Un soir, j'ai dû me faire dormir ainsi 3 fois et j'ai finalement décidé de m'abandonner. Mais pour ce faire, il fallait sortir tous les produits de la maison et qu'ils soient hors de ma portée. À la fin, j'ai dû faire la même chose avec l'alcool et toutes les pilules. Je ne pouvais pas résister aux produits chimiques tant qu'il y en avait dans la maison. S'il y en avait, je trouvais toujours un besoin d'en prendre, surtout des pilules. Jamais je n'ai pris un tranquillisant, un sédatif ou un excitant parce que j'étais dépendant des pilules. J'en ai toujours pris parce que j'avais le symptôme que seul un comprimé pourrait soulager. Donc, chaque pilule était indiquée au point de vue médical au moment où elle était prise. Pour moi, les pilules ne produisent pas le désir d'avaler une pilule. Elles produisent les symptômes qui nécessitent de prendre une pilule pour être soulagée. Comme médecin et pharmacien qui a grandi dans une pharmacie attachée à la maison, j'avais une pilule pour chaque maladie et j'étais souvent malade. Aujourd'hui, je constate que je ne peux pas vivre mon programme AA tout en prenant des pilules et je ne peux même pas en avoir à proximité, sauf pour les cas d'urgence. Je ne peux pas dire que ta volonté soit faite et prendre une pilule. Je ne peux pas dire je suis impuissant devant l'alcool, mais pas devant l'alcool solide. Je ne peux pas dire Dieu peut me rendre la raison, mais jusqu'à ce qu'il le fasse, je vais me contrôler avec des pilules. N'abandonner que l'alcool n'était pas suffisant dans mon cas. Il a fallu, et j'abandonne tous les produits chimiques qui affectent le comportement et l'esprit afin de rester abstinent et bien. Par 2 fois durant un week-end, j'ai décidé de ne rien prendre du tout. À chaque fois, j'ai eu des convulsions le dimanche matin. Les 2 fois, j'ai réagi en me disant que je n'avais rien bu la veille et que forcément l'alcool n'était pas en cause. Le neurologue qui s'occupait de moi n'a pas pensé à me demander si je buvais et je n'ai pas pensé à lui dire. Il en a résulté qu'il n'a pas pu comprendre pourquoi j'avais des compulsions et il a décidé de m'envoyer à la clinique Mayo. Il me semblait qu'avant tout, j'avais besoin d'une consultation. Par hasard, je trouvais que j'étais le meilleur diagnostiqueur que je connaissais à l'époque et je connaissais certainement mon cas mieux que quiconque. Je me suis donc assis en ma présence et j'ai passé en revue les faits qui ont conduit aux convulsions. Changement de personnalité, maux de tête quotidiens, sombres pressentiments, aliénation mentale imminente. Soudain, j'ai compris. J'avais une tumeur au cerveau et je mourais et tous auraient beaucoup de sympathie pour moi. La clinique Mayo semblait un bon endroit pour faire confirmer mon diagnostic. Après 9 jours d'analyse à Mayo, figurez-vous qu'on m'a enfermé dans l'aile psychiatrique. Après que la porte se fut refermée brutalement, Max, seul, est retourné à la maison. Je n'étais pas heureux d'être dans l'aile pour les fous et je n'ai pas aimé du tout être forcé de me contenter de gâteaux glacés la veille de Noël. J'ai piqué une telle crise qu'ils ont finalement accepté de me laisser sortir contre l'avis médical. Max a accepté de me prendre sous sa responsabilité après lui avoir promis de ne jamais boire de nouveau, de ne jamais prendre d'autres médicaments, de ne plus jamais jurer et de ne plus jamais parler aux filles. Nous avons pris l'avion et aussitôt, nous nous sommes querellés parce que je voulais prendre de l'alcool qui était gratuit. Max a gagné. Je n'en ai pas bu, mais je n'ai ni parlé ni mangé. C'est ainsi que Max, moi et nos deux filles ont passé le jour de Noël il y a 8 ans. Une fois arrivée à la maison, j'ai pris une bouteille de scotch et je suis allée me coucher. Le jour suivant, Max a téléphoné au neurologue et lui a fait part de l'opinion du psychiatre à Mayo. Il s'est arrangé pour que je voie un psychiatre local qui a rapidement décidé que je devais être dans la psychiatrie de notre hôpital local. Les gens insistaient pour me mettre dans une salle alors que Max et moi savions que je devais être en chambre privée. Finalement, elle a demandé « Vous rendez-vous compte qu'il fait partie du personnel de cet hôpital? » J'ai eu ma chambre privée. Le temps a passé très, très lentement dans mon deuxième asile de fous. Je n'y ai jamais vraiment pris goût et je me demandais sans cesse « Qu'est-ce qu'un gentil garçon comme moi fait dans un tel endroit? » Par-dessus le marché, il voulait que je fasse des ceintures en cuir. Étais-je allée à l'école toutes ces années pour m'asseoir et fabriquer des ceintures en cuir? De plus, je ne pouvais pas comprendre les instructions. La fille me les avait expliquées 4 fois et j'étais trop gênée pour les demander à nouveau. Je suis heureux de déclarer, toutefois, que je n'étais allée qu'à quelques réunions des AA avant de pouvoir faire une très jolie paire de mocassins et la moitié d'un porte-monnaie. J'ai porté ces mocassins tous les soirs pendant les 7 années suivantes jusqu'à ce qu'ils soient usés. Pour mon 7e anniversaire AA, ma femme, à l'annon et par le fait même axé sur le programme, a fait de recouvrir de bronze mes mocassins. Je suis peut-être propriétaire aujourd'hui de la paire de mocassins la plus chère qu'on ait vue et elle m'aide à me souvenir d'où je viens. À l'hôpital, je m'accrochais à l'idée qu'il me restait encore presque toute ma vie, que si je pouvais seulement contrôler mon environnement extérieur, l'environnement intérieur serait alors confortable. J'ai passé une grande partie du temps à écrire des lettres, des notes, des ordres et des listes de choses à faire pour Max, qui était aussi mon infirmière au bureau, afin que le monde puisse tourner pendant que j'étais enfermée. Il fallait être drôlement malade pour agir ainsi, et il fallait l'être peut-être qu'elle soit encore plus pour revenir chaque jour chercher une nouvelle liste comme elle l'a fait. Aujourd'hui, nous n'avons plus besoin de vivre ainsi. Max travaille encore avec moi au bureau, mais nous avons confié notre volonté, notre vie et notre travail aux soins de Dieu. Chacun, avec l'autre comme témoin, nous avons dit à haute voix la troisième étape, tout comme il l'est dit dans le gros livre. La vie devient de plus en plus simple et facile pendant que nous cherchons à me défaire de mes vieilles idées en prenant soin de l'environnement intérieur par les 2 étapes et en laissant l'environnement extérieur prendre soin de lui-même. Un jour, alors que j'étais assis là, à l'hôpital, mon psychiatre est venu derrière moi et m'a demandé « Aimeriez-vous parler à l'homme des AA? » J'ai réagi en disant que j'avais déjà aidé tous les patients dans l'aile et que j'avais encore beaucoup de problèmes personnels sans essayer d'aider quelques ivrognes des AA. À voir la réaction sur le visage du psychiatre, j'ai pu voir qu'il serait vraiment heureux que j'accepte. Ainsi, pour aucune autre raison que celle de lui faire plaisir, j'ai accepté. Je me suis très vite rendu compte que c'était une erreur. Quand ce grand clown est arrivé en bondissant dans ma chambre et en criant presque « Je m'appelle Frank et je suis un alcoolique, ha ha ha! » J'ai eu beaucoup de chagrin pour lui. La seule chose qui lui restait dans la vie, c'était de se vanter qu'il était un alcoolique. Ce n'est que plus tard qu'il m'a dit qu'il était avocat. Sachant que je faisais erreur, je suis allée à une réunion avec lui le soir même et une chose étrange a commencé à se produire. Le psychiatre, qui m'avait pratiquement ignoré jusqu'ici, a commencé à s'intéresser beaucoup plus à moi. Tous les jours, il me demandait toutes sortes de questions sur les réunions des AA. Au début, je me demandais s'il était alcoolique lui-même et s'il m'envoyait là pour apprendre des choses sur les AA. Mais je me suis vite rendu compte, en fait, qu'il avait cette idée puérile. S'il pouvait faire en sorte que j'aille à suffisamment de réunions pendant que j'étais à l'hôpital, je continuerais d'y aller après qu'il me donnerait mon congé. Alors, pour aucune autre raison que celle de lui jouer un tour, j'ai demandé à Frank de m'amener à une réunion tous les soirs. Frank veillait à ce que j'aille à une réunion chaque soir, sauf le vendredi, car il pensait peut-être avoir un rendez-vous avec ses petites amies. C'est une façon machiavélique de diriger une organisation, me suis-je dit. Et j'ai rapporté le cas de Frank au psychiatre, qui n'a pas semblé s'émouvoir. Il a simplement trouvé quelqu'un d'autre pour m'amener le vendredi. Enfin, le psychiatre m'a donné mon congé et Max et moi avons commencé à aller nous-mêmes aux réunions. Dès le début, j'ai senti qu'elle ne faisait rien pour moi, mais c'est fou ce qu'elle aidait Max. Nous nous asseyions à l'arrière et nous ne parlions qu'entre nous. Il a fallu précisément un an avant que je parle dans une réunion des AA. Même si j'étais content d'entendre rire les premiers jours, j'ai entendu bien des choses que je trouvais stupides. J'interprenais « sob » comme signifiant « boire sans se saouler ». Un jour, un jeune homme bien bâti, ayant l'air d'être en bonne santé, s'est levé et a dit « Je suis un succès aujourd'hui si je ne bois pas aujourd'hui ». J'ai pensé « Seigneur, j'ai mille choses à faire aujourd'hui avant de pouvoir me vanter de ne pas boire, pour l'amour du ciel ». Bien sûr, je buvais encore à ce moment-là. Aujourd'hui, rien au monde n'est plus important que garder cet alcoolique que je suis abstinent. Ne pas prendre un verre est extrêmement plus important que ce que je fais chaque jour. Il semblait que tout ce dont il parlait aux réunions, c'était boire, boire, boire. J'en avais soif. Je voulais parler de mes nombreux gros problèmes. Boire ne me semblait pas un gros problème. Je savais que ne pas prendre d'alcool pendant une journée ne m'apporterait pas grand-chose de bon. Finalement, après 7 mois, j'ai décidé d'essayer. Encore aujourd'hui, je suis étonnée de constater que la plupart de mes problèmes, certains d'après moi n'ayant aucun rapport avec l'alcool, sont devenus gérables ou ont simplement disparu depuis que j'ai cessé de boire. J'avais déjà cessé de prendre tous les narcotiques, la plupart des médicaments, et je buvais moins lorsque je me suis rendue chez les AA. Début juillet, j'avais complètement abandonné l'alcool et toutes les pilules dans les mois qui ont suivi. Quand l'obsession de boire m'a quitté, il a été relativement facile de ne pas prendre d'alcool. Pendant un certain temps, par contre, il fut difficile de me retenir de prendre une pilule quand j'avais un certain symptôme, tel une toux, une douleur du stress, de l'insomnie, un spasme musculaire ou un estomac dérangé. C'est devenu progressivement plus facile. Aujourd'hui, je crois que j'ai épuisé mon droit à la paix d'esprit artificielle. Cela m'a grandement aidé à me convaincre que l'alcoolisme était une maladie, pas une question morale, que j'avais bu suite à une obsession, même si je n'étais pas conscient de l'obsession à ce moment-là, et que l'abstinence n'était pas une question de volonté. Les membres des AA avaient quelque chose qui était beaucoup mieux que ce que j'avais, mais j'avais peur d'abandonner ce que j'avais pour essayer quelque chose de nouveau. Il y avait une certaine sécurité dans ce qui m'était familier. Enfin, l'acceptation s'est avérée la clé de mon problème d'alcool. Après avoir rôdé autour des AA pendant 7 mois, diminuant l'alcool et les pilules, ne trouvant pas que le programme fonctionnait très bien, j'ai finalement pu dire « Ça va Dieu, est-ce vrai que moi entre tous, aussi étrange que cela puisse paraître, et même si je ne l'ai pas permis, je sois vraiment, alors vraiment une sorte d'alcoolique? Je l'accepte. Maintenant, que vais-je faire? » Quand j'ai cessé de vivre dans le problème et que j'ai commencé à vivre dans la solution, le problème a disparu. À partir de ce moment-là, je n'ai pas eu une seule fois l'obsession de boire. Aujourd'hui, l'acceptation est la réponse à tous mes problèmes. Quand je suis perturbée, c'est parce qu'à mes yeux, il y a une personne, un endroit, une chose ou une situation, un aspect de ma vie, que je trouve inacceptable et je n'ai pas la sérénité tant que je n'accepte pas cette personne, cet endroit, cette chose ou cette situation comme étant exactement ce qui doit être à ce moment-là. Rien, absolument rien n'arrive par erreur dans ce monde créé par Dieu. Tant que je n'ai pas accepté que j'étais alcoolique, je n'ai pas pu rester abstinent. Je ne peux pas être heureux à moins d'accepter la vie telle qu'elle est. Je dois m'appliquer davantage à changer ce qui ne va pas dans mon esprit et dans mes attitudes au lieu de vouloir changer ce qui ne va pas dans le monde. Shakespeare a dit « Le monde est un théâtre et les hommes et les femmes en sont tout simplement des acteurs. » Ils ont oublié d'ajouter que j'étais le principal critique. J'ai toujours pu voir la faiblesse dans chaque être humain, dans chaque situation. J'étais toujours content de la signaler parce que je savais que vous recherchez la perfection, tout comme moi. Les AA et l'acceptation m'ont enseigné qu'il y a un peu de bon dans le pire d'entre nous et un peu de mauvais dans le meilleur d'entre nous, que nous sommes véritablement des enfants de Dieu et que nous avons tous le droit d'être ici. Quand je me plains de moi ou de vous, je me plains du travail de Dieu. Je dis que je suis meilleur que Dieu. Pendant des années, j'étais certain que la pire chose qui pourrait arriver à un bon garçon comme moi serait de devenir alcoolique. Aujourd'hui, je trouve que c'est la meilleure chose qui me soit arrivée. Cela prouve que je ne sais pas ce qui est bon pour moi. Donc, si je ne sais pas ce qui est bon pour moi, je ne sais pas non plus ce qui est bon ou mauvais pour vous ou pour quiconque. Il est donc préférable que je ne donne pas de conseils, que je n'essaie pas de savoir ce qui est le mieux et que j'accepte la vie comme elle est aujourd'hui, surtout ma propre vie comme elle est actuellement. Avant de me joindre au AA, je me jugeais par mes intentions alors que le monde me jugeait par mes actions. L'acceptation a été la réponse à mes problèmes matrimoniaux. C'est comme si les AA m'avaient donné une nouvelle paire de lunettes. Max et moi sommes mariés depuis maintenant 35 ans. Avant notre mariage, alors qu'elle était une adolescente timide et décharnée, je pouvais voir chez elle des choses que les autres ne percevaient pas nécessairement. Des choses comme la beauté, le charme, la gaieté, l'art de parler facilement, un sens de l'humour et plusieurs autres belles qualités. C'était comme si j'avais, au lieu de la touche Mita qui convertissait tout en or, un esprit grossissant qui grossissait tout sur quoi il se posait. À travers les ans, quand je pensais à Max, ses belles qualités se grandissaient sans aise. Sans cesse. Nous nous sommes mariés et toutes ces qualités me sont devenues encore plus évidentes et nous étions de plus en plus heureux. Mais alors, à mesure que je buvais de plus en plus, l'alcool a semblé affecter ma vue. Au lieu de continuer à voir ce qui était bien chez ma femme, j'ai commencé à voir ses défauts. Plus je gardais le focus sur ses défauts, plus il grossissait et se multipliait. Chaque défaut que je lui soulignais devenait de plus en plus gros. Chaque fois que je lui disais qu'elle n'était rien du tout, elle s'éloignait un peu plus dans le néant. Plus je buvais, plus elle se fanait. Un jour chez les AA, on m'a dit que les lentilles de mes lunettes étaient à l'envers, le courage de changer. Et la prière de la sérénité ne voulait pas dire que je devais changer mon état matrimonial, mais que je devais plutôt me changer moi-même et apprendre à accepter ma femme comme elle était. Les AA m'ont donné une nouvelle paire de lunettes. Je peux encore voir les belles qualités chez ma femme et les regarder devenir de plus en plus grandes. Je peux faire la même chose avec une réunion des AA. Plus je me concentre sur ses défauts, elle commence en retard, a des monologues d'ivrogne à n'en plus finir, a des cigarettes, plus la réunion est mauvaise. Par contre, quand j'essaie de voir ce que je peux ajouter à la réunion au lieu de ce que je peux en tirer, et quand je me concentre sur les bons côtés au lieu de ce qui n'est pas correct, la réunion est de mieux en mieux. Quand je me concentre sur ce qui est bon aujourd'hui, j'ai une bonne journée. Et quand je ne vois que le mauvais, j'ai une mauvaise journée. Si je me concentre sur un problème, il s'aggrave. Si je cherche une solution, je la trouve. Aujourd'hui, Max et moi essayons de nous dire ce que nous ressentons au lieu de ce que nous pensons. Nous avions l'habitude d'argumenter sur nos points de vue différents, mais nous ne pouvons pas argumenter sur nos sentiments. Je peux lui dire qu'elle ne devrait pas penser de telle façon, mais je ne peux certainement pas lui enlever le droit d'avoir ses propres sentiments. Quand nous parlons de sentiments, nous avons tendance à beaucoup mieux nous connaître, nous-mêmes et chacun de nous. Cette relation avec Max n'a pas été facile à reprendre. Au contraire, c'est dans ma propre maison qu'il a été le plus difficile de mettre ce programme en pratique, avec mes propres enfants et finalement avec Max. Il semble que j'aurais dû commencer par apprendre à aimer ma femme et ma famille, ensuite le nouveau chez les AA. Mais je suis le contraire. En définitive, j'ai dû refaire chacune des 12 étapes en ayant spécifiquement Max en tête, à partir de la première qui dit « Je suis impuissant face à l'alcool et j'ai perdu la maîtrise de ma vie à la maison », jusqu'à la 12e où j'ai essayé de penser à elle comme une Al-Anon malade et de la traiter avec l'amour que j'aurais donné à un nouveau membre des AA malades. Quand je fais cela, nous nous entendons bien. La meilleure chose de toutes, pour moi, c'est peut-être de me rappeler que ma sérénité est inversement proportionnelle à mes attentes. Plus mes attentes vis-à-vis de Max et des autres sont élevées, moins je suis serein. Je peux voir augmenter mon degré de sérénité quand je renonce à mes attentes. C'est alors que mes droits essaient de prendre le dessus et eux aussi peuvent diminuer mon degré de sérénité. Je dois me renoncer à mes droits autant qu'à mes attentes, en me demandant « Est-ce vraiment si important? » À quel point est-ce important au regard de ma sérénité, de ma sobriété émotive? Quand j'accorde plus de valeur à ma sérénité et à ma sobriété qu'à toute autre chose, je peux les maintenir à un degré plus élevé, au moins pour le moment présent. L'acceptation est aujourd'hui la clé de ma relation avec Dieu. Il ne m'arrive jamais de m'asseoir et de ne faire rien en attendant qu'il me dise quoi faire. Plutôt, je fais ce que je dois faire et je lui laisse les résultats. Quel qu'il soit, c'est la volonté de Dieu à mon égard. Je dois garder mon esprit qui a magiquement tendance à exagérer sur mon acceptation et loin de mes attentes, car ma sérénité est directement proportionnelle à mon degré d'acceptation. Quand je garde cela à l'esprit, je me rends compte que je n'ai jamais été si bien. Merci mon Dieu pour les AA.